Que Dieu soit béni. En effet, on est heureux d'être ensemble ce matin pour partager ces moments, ce culte. Je voudrais souhaiter une bienvenue, bien sûr, à chacun, à chacune, et puis à ceux qui viendraient pour les premières fois dans ce lieu de culte évangélique. Que Dieu vous bénisse. Ouvrez votre cœur pour que la parole de Dieu touche votre cœur. Alléluia. Ce matin, je vais parler du baptême dans le Saint-Esprit, parce que c'est une promesse pour aujourd'hui. Voilà. Et si vous en doutez, je vais tout faire avec la parole de Dieu, pas avec mes idées à moi, avec la parole de Dieu, avec les Écritures, avec l'Évangile. Je vais tout faire pour vous convaincre. Alors bien sûr que le Saint-Esprit agit, et c'est lui qui va vous convaincre. Mais personnellement, en tant que prédicateur, eh bien, je suis aussi appelé à faire tout avec zèle, eh bien, pour vous amener à réaliser la puissance de Dieu. Pour vous, pour votre salut, pour votre guérison, et pour que vous rentriez donc dans les promesses de Dieu. Pendant la mission, la semaine dernière, ou du moins le week-end dernier, nous, lors d'une réunion, le pasteur Hilmer Roman a parlé précisément du Saint-Esprit. Alors je vais vous en reparler. Il en a parlé d'une certaine manière en rappelant qu'il y avait malheureusement encore trop de puits bouchés par tellement de choses. Alors, je ne reviendrai pas sur son message, il suffit que vous alliez sur notre site de l'église, addgroyer.fr, et vous allez retrouver le message, et les messages. Et en effet, nous avons besoin de laisser notre vie être ouverte, un cœur ouvert. Ouvert. J'aimerais lire avec vous deux passages pour introduire. Un premier dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 12, c'est Jésus qui nous dit donc ceci. Jean, évangile de Jean, chapitre 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, dit Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Toujours dans le même évangile de Jean, donc chapitre 7, verset 38. Même verset 37. Le pasteur Hilmer Roman, justement, a appuyé son message là-dessus, mais je rappelle ce texte malgré tout. Le dernier jour, le grand jour de la fête, donc la fête des tabernacles, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui, dit Jésus, qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croirait en lui, en Jésus. car le Saint-Esprit, l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Quand il est dit qu'il n'était pas encore, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore été répandu parmi ceux qui avaient cru en Jésus. Mais ça va se manifester, et on va y revenir d'ailleurs, ça va se manifester quelque temps plus tard. Parce que ce que Dieu promet, il le fait. Il l'accorde. Maintenant, il ne peut agir, on insiste, que dans le cœur de ceux qui sont disponibles, ouverts, qui reçoivent Jésus, qui s'attachent à Jésus. On va y revenir. Mais parlons justement du témoignage de Jésus. En ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, verset 22, il nous est dit que le Saint-Esprit, lors du baptême de Jésus, baptême qui a été administré par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel, la voix du Père, céleste, ses paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Un autre texte de l'Évangile dira « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Écoutez Jésus, écoutez sa parole. Le Saint-Esprit va descendre sur Jésus au moment où il est plongé par Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain. Il va donc le baptiser, Jean-Baptiste ne voulait pas. Et le Seigneur de lui dire, mais il est convenable de faire ce qui est juste. Il est convenable, en quelque sorte, c'est ce que Jésus veut dire, il est convenable que la volonté du Père s'accomplisse. Il est convenable que je sois, et on va y revenir sur cette réalité, il est convenable que je sois l'exemple à suivre, à imiter. Et de ce fait, Jean-Baptiste va obéir, il va s'exécuter. Et quand Jésus descend dans ces eaux du Jourdain pour être baptisé, il y a cette colombe. Il descend sur lui, qui est un symbole de la pureté, donc du Saint-Esprit. Il y a une différence entre une colombe et un pigeon. Non, mais il faut quand même le dire, parce que les gens, ils mélangent tout. Il y a une différence entre une colombe et un pigeon. Une colombe, elle n'a pas de fiel en elle. Oui, un pigeon, oui, mais pas une colombe. Voilà. Et si vous ne me croyez pas, vous allez sur Internet, demandez à Monsieur Google et il va vous répondre. Il n'y a pas de fiel à l'intérieur de la colombe. Et on comprend que ça ne soit pas un pigeon qui se soit manifesté. Que ce soit un autre volatile, quel qu'il soit. Dieu ne fait pas les choses à moitié. C'est une colombe. Symbole de la pureté, symbole, eh bien, de cet esprit de Dieu lui-même, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, de l'Éternel, en qui il n'y a aucune impureté, qui est saint. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est une image forte qui va saisir. Le Seigneur, j'ai dit, ne fait pas les choses à moitié, qui va saisir ceux qui seront là, au bord du Jourdain. Jean-Baptiste lui-même. En définitive, cela peut nous ramener au livre de la Genèse, des commencements, des origines. Alors que la terre était informe et vide, il nous est dit qu'à ce moment-là, il y avait quelqu'un, quelque chose qui se manifestait. Et l'Écriture nous dit au chapitre 1er du livre de la Genèse, donc tout au début, verset 2, que l'Esprit de Dieu planait. Au-dessus de cette terre informe et vide, au-dessus des eaux, avant la création totale de la terre, de tout ce qui s'y trouve et s'y meut, aujourd'hui encore. Quand on regarde le livre du Lévitique, qui est le livre qui était donc important dans le cadre du Pentateuque, des cinq premiers livres que Moïse a donné de la part de Dieu à Israël. Dans le livre de Lévitique, il y a toute la démarche pour servir Dieu, pour les sacrifices, pour plaire à Dieu, dans une démarche de sainteté. Et là, dans le livre du Lévitique, au chapitre premier, il est parlé de la colombe qui était considérée comme un oiseau pour le sacrifice. L'agneau également, et bien d'autres animaux de pur, bien sûr, selon la liste que Dieu avait donnée à Israël. La colombe de l'Esprit qui va descendre sur l'agneau de Dieu, qui est présenté ainsi à un moment donné par Jean-Baptiste à ses disciples, il dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché des hommes, des femmes qui vont croire en lui. » Je rajoute ça parce que il y en a qui pensent que c'est automatique. Baf. Il y a une démarche personnelle à faire. La colombe de l'Esprit, donc, descend sur l'agneau de Dieu. Et la colombe de l'Esprit et l'agneau de Dieu, eh bien, en définitive, va ou vont se préparer, parce qu'il y a là comme une unité, une union, pour le grand sacrifice de la croix, pour notre salut, pour le pardon de nos péchés, pour avoir une relation rétablie avec l'Éternel, le Créateur, au travers de ce sacrifice, si nous le croyons, si nous acceptons Jésus. Il y a des conditions. Le fait d'accepter une religion, ça ne changera rien du tout. Le fait d'accepter une idée religieuse, ça ne changera rien du tout à votre vie. Moi, j'ai essayé. J'en parlais hier lors d'une visite à un jeune garçon, et je lui ai dit, mais moi aussi, avant ma conversion, je croyais dans des tas de choses. Alors je lui en ai énuméré une, au moins. Il me dit, moi je crois en rien. Je dis, c'est impossible. Et alors je l'ai amené à réfléchir logiquement. Et il était un peu embêté. C'est normal. Sa conscience venait de recevoir une information qu'il avait tendance à refuser. Ça, c'est pour ceux qui viennent le vendredi soir. J'en parle en ce moment. Donc, il y a là une démarche personnelle. Jésus lui-même va faire la démarche. Et en hébreu, cela ressort bien, puisque quand Jésus descend dans les eaux du baptême, baptisé par Jean-Baptiste, nous nous rendons compte que, non seulement la colombe, oui, de l'Esprit, lui l'agneau de Dieu, donc reçoit à ce moment-là, l'onction. D'ailleurs, je le dis en hébreu, ça ressort bien, puisque Jésus, c'est le Messie. Amen. C'est le Messie. Celui qui est annoncé prophétiquement dans l'Ancienne Alliance. Et Jésus l'a rappelé, l'a souligné auprès de ses disciples, qui parfois en doutaient. Il l'a souligné auprès des religieux, les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les gens du peuple. Et il l'a même dit, souligné d'une manière très claire, très nette, très précise auprès de Pilate. Le Messie. Et en hébreu, ça signifie tout simplement celui qui est oint. En grec, parce qu'on parlait le grec aussi à l'époque, c'est Christos, qui veut dire la même chose, oint, une onction. Si à sa naissance on arrive, ça va vite, hein, on arrive bientôt à Noël, et alors on va rappeler encore la naissance de Jésus, naissance miraculeuse, par l'action du Saint-Esprit, une fois de plus, c'est-à-dire une naissance pure, sans tache, gloire à Dieu, miraculeuse. Et si à sa naissance, les anges, auprès des bergers, vont annoncer le Christ, ils le disent, le Christ, loin de l'Éternel, il va l'être encore plus, et d'autant plus, on y revient, lors de son baptême. L'onction que Le Seigneur reçoit parce qu'il est notre exemple. Et je suis dans le sujet du baptême dans le Saint-Esprit, mais j'insiste sur Jésus pour que vous compreniez que ce n'est pas une option. L'onction qu'il reçoit, ou l'onction concerne, chez lui, dans sa personne, à partir du moment où il reçoit la puissance du Saint-Esprit, et je vais insister tout à l'heure avec des détails, elle concerne trois ministères que nous trouvons chez la personne du Christ. Le ministère de prophète, le ministère de sacrificateur, le ministère de roi. Jésus sera le prophète par excellence. Il sera le sacrificateur qui offre lui-même sa propre vie. Puis il est toujours le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 34, il est écrit « Car celui que Dieu a envoyé, donc Jésus, dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » L'onction que Jésus reçoit, non seulement d'une certaine mesure à sa naissance pure, miraculeuse, mais bien plus lors du baptême. L'onction que Jésus reçoit, eh bien, était une onction qui était sans limite. N'oublions pas que Jésus est le Fils de Dieu, mais Jésus a été et se présente ainsi devant le Père en tant que Fils de Dieu, mais en tant que Fils de l'homme, qui a été celui qui s'est présenté comme la victime expiatoire, la victime de substitution, la victime de délivrance pour quiconque croit en lui. Fils de l'homme. On a trop souvent tendance à croire que Jésus était seulement fils de Dieu, ou Dieu au milieu des hommes, puisque l'autre nom qui est donné à Jésus, c'est également Emmanuel, ce qui veut dire Dieu au milieu de nous, Dieu avec nous, Dieu présent dans ce lieu ce matin. Mais il était, et il est toujours, fils de l'homme, ressuscité, glorieux. Rentrer dans la gloire, à la droite du Père, intercédant pour nous, continuant son ministère par l'action de son esprit, ce matin encore, dans ce lieu et sur toute la terre. En tant qu'homme, il avait, en tant que fils de l'homme, il avait besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Je vous rappelle que Jésus, en tant que fils de l'homme, et l'Écriture nous le montre, l'Évangile nous le montre, il était avec les mêmes limitations que les nôtres. Il avait faim. Il avait soif, il avait besoin de dormir. Il ressentait des émotions, il ressentait la douleur. Relisez les textes qui nous parlent de Jésus quand il est confronté à la trahison de Judas, quand il est confronté à la trahison de Pierre. Jésus, quand il est flagellé, battu, malmené à cause de ma folie, de mon péché, de mon iniquité. Jésus qui est considéré comme rien. Jésus que l'on cloue sur un bois. Laissez-moi vous dire que Jésus a ressenti toutes les douleurs. Il a énormément souffert. Et la Bible ne nous dit pas tout. Mais parfois, quand on est dans une grande souffrance physique, dans de grandes douleurs physiques, ça nous tire des larmes. On pleure de douleur. Jésus a connu tout cela. Il avait besoin de la puissance du Saint-Esprit. Oui, Jésus en avait besoin. Juste avant de commencer son ministère, et c'est l'évangile de Luc qui va quand même souligner cela d'une manière assez précise, et qui nous dit au chapitre 4, rien que le verset premier, Jésus va être rempli du Saint-Esprit en revenant du Jourdain, donc en revenant de son baptême. Et il va être conduit par le Saint-Esprit dont il est rempli, dont il est oint, dont il est revêtu. Il va être conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il a été tenté par le diable pendant 40 jours. Il n'a rien mangé pendant ces jours-là. Et au bout de 40 jours, ça se comprend. Moi, dans quelques heures, ça va déjà se manifester. Il a eu faim. Et le diable va le tenter. Il va saisir l'occasion que Jésus, en tant que fils de l'homme, est dans une faiblesse physique. Le diable va toujours trouver le bon moment pour essayer à tenter, pour essayer à décourager, pour essayer à repousser les hommes loin de l'Évangile. Mais je remarque que Dieu, dans sa providence et dans son omniscience, dans son omnipotence, il met tout en œuvre par la puissance du Saint-Esprit pour que les hommes, malgré qu'ils ne le veuillent pas, soient confrontés à l'Évangile. Je n'oublie pas comment Dieu s'est manifesté à mon cœur il y a des années de cela. J'étais un homme méchant, pris par l'alcool, pris par la drogue, dans la violence la plus extrême. Je vivais la nuit et le jour je me couchais. J'étais dans une spirale de folie et je me souviens de cette nuit-là. 4 heures du matin, je sortais d'une boîte de nuit. Eh oui, ça paraît bizarre. Et à 14h du matin, je me suis mis dans un square dans la ville de Montpellier. Parce qu'il existe toujours, ça a tellement changé, Montpellier. Et là, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai regardé les étoiles, c'était en plein mois d'août. Et j'ai dit, mais si tu existes vraiment, pourquoi ma vie, elle se résume à ça? Parce que je réalisais ma misère, je réalisais ma détresse. Et Dieu a entendu le cri du malheureux que j'étais. Et par son esprit, il a saisi des croyants de l'église évangélique de Montpellier et il les a mis sur ma route. Et ces hommes et ces femmes, et ce couple plus précisément, m'ont dit, Laurent, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jésus veut sauver ta vie. Jésus a des projets pour toi. Jésus a tout préparé pour ton présent, mais surtout pour ton avenir. Ces gens-là étaient remplis de l'Esprit. Je le confirme. Ils étaient remplis de l'Esprit. Je les ai côtoyés pendant quelques années. Certains sont encore en vie dans l'église de Montpellier, d'autres ont déménagé. Mais ils étaient et ils sont toujours remplis de l'Esprit. Jésus a besoin de cela pour apporter quelque chose de fort, de puissant, selon la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même qui va continue aujourd'hui au sein de l'Église du 21e siècle, ce ministère de puissance. Parce que le Saint-Esprit, nous l'avons lu, ne parle pas de lui-même, il vient pas pour dire « moi le Saint-Esprit », mais il parle de Jésus et il dit « tourne ton cœur vers Jésus, tourne tes yeux vers Jésus, ouvre ta vie à Jésus, ouvre-toi, toi, croyant, chrétien, sors de ta zone de confort, sors de tes craintes, sors de tes peurs, sors de ta timidité, entre là, maintenant, dans la plénitude de l'Esprit. » Alléluia. Je me suis converti, j'étais pas baptisé du Saint-Esprit. J'entendais parler du baptême dans le Saint-Esprit. Je voyais les chrétiens autour de moi, qui marchent avec Dieu depuis des années, je les voyais vivre la vie de l'Esprit. Moi, j'aimais Jésus, j'avais accepté Jésus, oh, je commençais à grandir avec lui. J'étais un bébé spirituel, je commençais à progresser, mais je les voyais vivre dans leur témoignage, dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, dans leur communion, dans leur relation fraternelle. Je les voyais vivre la vie de l'Esprit, parce que quelqu'un qui est réellement baptisé dans le Saint-Esprit, il vit tout cela intensément. Et pas à moitié. Jésus n'a jamais rien vécu à moitié jusqu'à la croix. Il a vécu jusqu'au bout, pleinement, profondément, pour nous donner un exemple. Il y a bien une chose dont j'ai horreur, c'est une vie chrétienne, religieuse, froide, morne, qui ne sert à rien. Ma plus grande joie, c'est de servir à quelque chose pour la gloire de Dieu tous les jours de ma vie. Et chaque fois que je me lève, le matin, je dis « Seigneur, aujourd'hui, sers-toi de moi pour rendre témoignage à quelqu'un, pour amener quelqu'un à te connaître. » Et vous savez ce que Dieu fait ? Il répond. Et comme le Saint-Esprit est en moi, il n'y a pas de problème. Il y a une personne ce matin, hier j'ai fait une visite, elle peut le confirmer, mais ce jeune homme que j'ai rencontré, je lui ai dit « Écoutez-moi bien, monsieur. » Je l'appelais par son prénom. Je lui ai dit ceci. Je lui dis maintenant que je viens de parler avec vous, parce qu'il y a un environnement occulte autour. Voilà, je le souligne. Voyance, guérisseur, et j'en passe. Ça existe beaucoup en France. Et puis alors dans le Tarn, n'en parlons pas. Et Dieu a permis qu'il soit là. Normalement, il ne devait pas être là. Mais il est arrivé en plein milieu quoi de la visite. Alléluia. Il s'est assis en plus face à moi. Béni soit Dieu. Waouh. Ah, j'ai dit là mon brave. Là, je vais te parler de Jésus. Et ma femme peut le confirmer, elle est avec moi et la personne qui est là, elle peut le confirmer aussi. Et donc je lui ai dit maintenant que je vous connais, je ne vais pas vous lâcher dans la prière. Oh, j'avais l'impression que je venais de sortir une AK-47. Il était mal. Je ne sais pas où il est, elle peut le confirmer. Et donc, il m'a dit, mais regardez, mais il était apeuré. Je dis, non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et je crois dans la puissance du Saint-Esprit. Moi, j'ai fait une part de mon travail. Je continue à prier. Et je crois que par l'action du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui va se passer. Pour lui et toute sa famille, parce que c'est toute une famille qui habite les uns à côté des autres et ça trafique et machin, ceci. Mes frères et sœurs, Jésus, sa vie, elle était contrôlée par le Saint-Esprit. Et la victoire de Jésus au moment de la tentation, elle est due à la parole de Dieu, oui, mais employé par un homme rempli du Saint-Esprit. Et dans le combat spirituel, il y a trois éléments qui interviennent. Vous entendez ? Dans le combat spirituel, il y a trois éléments qui interviennent. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu et la prière, conduite par le Saint-Esprit. Moi, j'ai vu la différence quand j'ai été ensuite baptisé du Saint-Esprit dans l'église de Montpellier, entre le moment où je ne l'étais pas et le moment où je l'ai été, a été une transformation incroyable. J'ai été transformé au moment de la nouvelle naissance et j'ai été encore un peu plus transformé au moment du baptême dans le Saint-Esprit. Je n'étais plus le même bonhomme. Et ceux de Montpellier qui sont encore en vie, qui m'ont connu tout jeune dans la foi, peuvent le confirmer. Vous êtes à Montpellier, vous devez en croiser quelques-uns. Donc, il y a eu un changement dans la puissance, dans la force, dans l'autorité spirituelle. Parce que j'étais un grand timide, j'étais ceci. Ça paraît pas comme ça. C'est pour ça que je buvais beaucoup. C'était un moyen pour moi de faire face. Le combat spirituel, on le vit différemment. La vie chrétienne, on la vit différemment. Il en est de même, donc, pour chacun d'entre nous, effectivement, ou un du Saint-Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 21 et 22. « Et celui qui nous affermit avec vous en Christ, dit Paul, et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. » Les œuvres de Jésus ont été puissantes. Amen. Alors vous allez me dire, c'est Jésus. Arrêtez de vous cacher. Parce que la Bible me dit, Jésus me dit, Jésus nous dit. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que quand je serai parti, je vous enverrai mon esprit. Il savait de quoi il parlait, Jésus. Il en était revêtu. N'oublions pas qu'on est dans l'ancienne alliance. la permanence du Saint-Esprit dans l'Ancienne Alliance n'était pas. Elle était sur les prophètes, elle était donc sur certaines personnes bien précises, mais elle ne demeurait pas. Aujourd'hui, c'est une promesse de demeure. Jésus est le premier sur qui le Saint-Esprit a demeuré. Dans l'Ancienne Alliance, il est en train d'ouvrir la Nouvelle Alliance. Il est venu pour accomplir la loi. Il est venu pour faire la volonté du Père, pour nous conduire sur ce chemin nouveau. Sur lequel, encore aujourd'hui, en ce dimanche de ce mois d'octobre, nous sommes appelés à entrer. Non pas en deçà, à dire « Oh, ça va, comme je suis, c'est bien ». Non, c'est pas bien. Moi, je ne sais pas comment, excusez-moi, je ne sais pas si quelqu'un est comme ça, de dire « Comme ça, ça va ». Parce que, franchement, je me mets un petit peu à votre place. Je ne pourrais pas, personnellement, venir dans ce lieu de culte et dire « Ça va ». C'est bien comme ça, j'ai pas besoin du baptême, j'ai pas besoin de salut, j'ai besoin de rien. Je suis bien là, il y a une belle ambiance, hein, le pasteur il remue partout, moi je m'endors pas. Bref, il fait venir des pasteurs qui remuent dans tous les sens, je m'endors pas non plus. Non, peu importe, qu'on remue ou qu'on remue pas, c'est pas ça le problème. C'est nous, je pose la question. Je dis, mais personnellement, si ma vie chrétienne ne servait à rien, je préfère arrêter. Mais avec Dieu, c'est différent, il a des projets, il a des plans. Pour toi, jeune homme, pour toi, jeune fille, pour vous qui êtes de mon âge, c'est-à-dire encore jeune, pour vous qui êtes plus âgés. Bref. Jésus a accompli des œuvres puissantes et il a dit, et à ce moment-là, vous ferez de plus grandes choses que celles que j'ai faites. Alors un jour m'a dit quelqu'un, mais c'est impossible, on ne peut pas dépasser Jésus. Oui, c'est vrai, on ne peut pas dépasser Jésus. Mais Jésus ne veut pas dire qu'on va le dépasser. Il est en train de dire, parce que vous allez être revêtus de la puissance du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit, on parlera de cette vérité, c'est-à-dire la plénitude de l'Esprit également, et donc, parce que vous allez être ainsi, parce que vous allez suivre mon exemple, alors, vous allez accomplir les mêmes choses que j'ai faites, les mêmes de plus grandes. Ça veut dire tout simplement, vous allez vivre le même ministère que j'ai vécu, vous allez transmettre la même parole que j'ai transmise, seulement vous allez le faire avec l'onction du Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit, la personne du Saint-Esprit en vous, baptisé de l'Esprit, immergé dans l'Esprit, car le mot baptême c'est cela, immergé, alléluia, pas seulement être rempli au moment de la nouvelle naissance, dans le sens, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour ma nouvelle naissance avec la parole de Dieu, mais là, je suis complètement immergé, comme quand je descends dans les eaux du baptême. Et donc je vais continuer l'œuvre de Jésus et je vais l'amener plus loin. C'est ça que ça veut dire. Mais pas sans Jésus, parce qu'on ne peut rien faire. Pas sans le Saint-Esprit, parce qu'il va nous manquer de la puissance. Pas sans la parole, parce que ça, eh bien c'est vous à l'échec sans la parole. Pas sans la prière, parce que sans la prière, une église n'avance pas, vous n'avancerez pas, personnellement, individuellement, la prière. Même si vous n'avez pas l'habitude de prier, priez, demandez à Dieu, Dieu entend, Dieu reçoit vos prières. Moi, je bénis Dieu quand j'entends les prières des enfants. Je dis souvent, la semaine, ils sont là, avec les parents les amènent, quand c'est possible, bien sûr. Et le mardi soir, le vendredi soir, et ils entendent la parole. Alors, je t'ai vu, tu sais. Non, mais ils ont l'habitude, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas traumatisés, hein. Je peux vous le dire, hein. Vous inquiétez pas. Je t'ai vu, hein. Toi aussi. Parce que les deux, ils se mettent alors devant, proches là, vous savez. Ils me cherchent en plus. Je vous ai vu, hein. Vendredi, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant que je prêchais? Et j'ai point numéro un, je faisais ça, vous voyez. Point numéro deux, point numéro trois. Moi, je fais des gestes, hein. Je suis un sais-toi, hein. Et vous savez ce qu'ils faisaient, les deux? Ils faisaient. Attends, on va régler ça tout à l'heure. Les parents m'ont donné carte blanche. Mais leur cœur est ouvert. Et j'ai demandé parfois aux enfants de prier. Ils prient. Ils prient. Avec leur cœur. Que Dieu les baptise aussi du Saint-Esprit. Et Jésus va être revêtu de cette puissance parce que, quand, toujours, hein, Luc 4, verset 14, là on n'est plus dans le cadre de la tentation, verset 14, donc Jésus va vaincre le diable, il va pas tomber dans la tentation, il continue son ministère, mais il est écrit que Jésus, donc c'est un rappel, revêtu de la puissance de l'Esprit, il va retourner donc en Galilée, sa renommée va se répandre dans tout le pays d'alentour, il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Et il va se rendre à Nazareth. Et là, il connaît cette ville, on le connaît dans cette ville, parce que c'est là qu'il a été élevé, Jésus, à Nazareth, avec Joseph et Marie. Donc, et selon sa coutume, selon la coutume juive, il va entrer dans la synagogue. Donc, le jour du sabbat, c'est-à-dire le samedi, il entre dans la synagogue, Jésus y rentre, et puis on va certainement, et le rabbin va dire à Jésus de lire un texte de l'Écriture. Et Jésus va le faire, mais tout est calculé, hein, vous savez, dirigé par Dieu, hein. Même le rabbin, il ne le sait pas, il est piloté par le Seigneur. Et donc, à ce moment-là, il va ouvrir, le Seigneur sait ce qu'il fait, il va ouvrir le livre, le rouleau, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore la Bible, elle est en train d'être écrite. Il va ouvrir le rouleau du livre du prophète Ésaïe, et il va y lire ce texte que nous retrouvons dans, si je ne me trompe pas, dans Ésaïe, au chapitre 65, je crois, ou 66, et il va lire ceci, l'Esprit, je le lis, hein. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer, il m'a oint, on retrouve le mot, pour annoncer, il m'a oint, il m'a rempli de l'Esprit, je suis revêtu de l'Esprit, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Il m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés. Il m'a envoyé pour publier une année de grâce, pardon, du Seigneur. Et ensuite, il va rouler le livre, il va le remettre au serviteur, il va s'asseoir. Tous ceux qui sont dans la synagogue ont les regards fixés sur lui, sur Jésus. Alors Jésus, quand il voit ça, il leur dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, elle est accomplie. Alléluia. Elle est accomplie. Elle est accomplie. Gloire à Dieu. Il m'a oint l'onction. Il n'y a qu'une onction. Attention, des fausses doctrines circulent, multiples onctions, c'est faux. Il n'y a qu'une onction. C'est ce que la Bible m'enseigne. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. Qui peut descendre sur vous si vous croyez en lui. Si vous avez mis votre foi en lui. Si vous lui avez ouvert votre cœur. Et je vais le dire dans quelques instants, de clôturer et puis de prier pour ceux qui le désirent. Mais il y a là l'onction de l'Esprit afin de pouvoir faire cette œuvre que notre pays a besoin, que la ville de Grolly a besoin, que le Tarn a besoin. Le Seigneur ne va pas utiliser des religieux, ça ne servira à rien. Il veut utiliser des hommes et des femmes qui vont être comme lui, comme toi, Jésus, dit un chant, je veux être un serviteur. Quelqu'un d'accompli, propre à toute bonne œuvre. Donc quelqu'un rempli de l'Esprit, ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Quelqu'un qui apporte un réveil, quelqu'un qui apporte la vie pour qu'il y ait des résurrections spirituelles en abondance. Quelqu'un qui apporte du dynamisme à un cœur, il y a tellement de cœurs écrasés, tellement de vies, eh bien, voûtées, qui regardent plus vers la terre que vers le ciel. Tellement de souffrance, tellement de misère, tellement de folie aujourd'hui, mais ça prend une ampleur, mais c'est considérable. Même de ceux qui nous gouvernent ont une tendance parfois à dire ou à faire ce qu'il ne faudrait pas dire et ne pas faire, alors qu'ils ont des devoirs de réserve et d'exemple. On est dans un monde où il n'y a plus de frein. On est dans un monde où il n'y a plus de valeur. Aujourd'hui, on dit « c'est normal ». Ceci, c'est normal, cela. Tellement de folie. Tellement de folie. Comme dit la Bible, les hommes ne savent pas reconnaître leur droite de leur gauche. Même l'âne, lui, il sait où est l'étable. Les hommes, ils savent même pas où est leur identité, où ils doivent aller, ils savent rien. Jésus est venu pour changer cela. Mais il est venu rempli de l'Esprit. Et il nous a envoyé, et il a envoyé sur l'Église le jour de la Pentecôte, selon sa promesse. 50 jours après sa résurrection, 10 jours après son ascension, il a envoyé celui qui était promis, et sur les 120 qui étaient là environ, où étaient-ils les autres, je ne sais pas, mais il y en avait 120 qui étaient là, et pendant 10 jours, et ils ont loué Dieu, et ils ont adoré Dieu, et ils ont prié, et ils savaient que Jésus leur a dit, allez là, et attendez la promesse. Ils l'ont attendu avec foi, ils l'ont attendu avec détermination, ils ne l'ont pas attendu en disant, on s'assoit et on attend. Un jour, 2 jours, 3 jours. Le Seigneur ne m'a pas dit un jour, Laurent, engage-toi dans un ordre contemplatif. Il ne m'a pas dit non plus, engage-toi dans un ordre de silence. Je suis prêt, Seigneur, envoie. Non. Ce qui ne veut pas dire que le Seigneur ne peut pas agir aussi dans des moments de silence. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais pendant 10 jours, ils ne sont pas restés à se regarder, à dire « Comment tu vas? Ta maman va bien ?» Déjà une journée, ça suffit pour avoir toutes les informations. 10 jours. 10 jours. Si je vous disais, à partir de demain, pendant 10 jours, on va prier pendant toute la journée, lundi, mardi, mercredi, vous prenez vos RTT, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je suis convaincu, je vous parle d'une journée, hein. Je suis convaincu, le premier jour, vous allez tous venir. Je suis gentil quand je dis tous. Hein. Vous allez tous venir. Et alléluia, alléluia. Le deuxième jour, vous allez être encore tous là. Alléluia, amen, gloire à Dieu, Seigneur. Le troisième jour, il va y avoir un peu moins de personnes. Ils vont dire alléluia. Le cinquième, le sixième, petit à petit. Et puis le dixième jour, le pasteur se retrouve tout seul. Et ils sont passés 10 jours. Alors vous allez dire, c'est vrai que par rapport à la vie d'aujourd'hui, c'est une image, comprenez très bien. Le Saint-Esprit veut agir. Et nous avons vu, et je l'ai dit tout à l'heure, permettez que je rajoute cela, mais que le baptême du Saint-Esprit est pleinement manifesté dans la personne de Christ, et d'ailleurs différents termes sont employés dans la Bible, dans Actes, chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 8, chapitre 10, chapitre 11. Lisez la Bible. Et il y a ces termes, baptisé d'Esprit Saint, l'Esprit qui descend, l'Esprit répandu, la promesse du Père, le don du Saint-Esprit, rempli d'Esprit Saint, recevoir l'Esprit Saint. En définitive, il y a plus de 70 références sur le Saint-Esprit. Et vous allez me dire que le Saint-Esprit, c'est une option? Alors, on n'a pas la même Bible. Vous n'avez pas vraiment tout compris ce que le Seigneur m'a permis de comprendre et de vivre. Je vous encourage vraiment à réaliser que le Seigneur non seulement nous dit que c'est à notre portée, mais qu'il veut aussi nous l'accorder. Il donne le Saint-Esprit c'est marqué hein, dans l'Évangile, à ceux qui le lui demandent. Et un autre texte évangélique qui dit, demandez et vous, amen, et vous recevrez. Cherchez, et vous trouverez frappé, rentre, reçois. Si quelqu'un a soif. Mais c'est un peu ça. Je m'approche, Seigneur, j'ai soif. Vous avez soif ce matin ? Le message est simple, je pourrais beaucoup plus le compliquer, mais ça servira à quoi ? Alors quand vous regardez la Bible, et je vais conclure dans quelques minutes, je vais prier pour ceux qui le désirent. Non seulement pour le salut, j'ouvre une parenthèse, peut-être certains ont besoin du salut, d'être pardonnés de leurs péchés, et au même moment, et je vais le souligner maintenant, vous pouvez être baptisés dans le Saint-Esprit. Regardez, la Pentecôte, acte 2, les 120, j'en ai parlé, ils reçoivent la promesse, ils sont baptisés. À Samarie, acte 8, Philippe, qui était un diacre auparavant, va devenir un évangéliste, il va prêcher l'évangile. Et là, en Samarie, acte 8, ceux qui écoutent, en plus ils étaient pris par des pratiques occultes, il y avait là un homme qui s'appelait Simon, il est surnommé Simon le magicien. Le magicien, lui qui trafique. Et il leur faisait croire que lui, Simon le magicien, il avait la puissance de Dieu. Celle qu'on appelle la grande. Oh. C'est pas l'humilité qui l'étouffait, lui. Hein. Mais, quand Philippe annonce la croix, quand Philippe prêche le salut en Jésus-Christ, les Samaritains sont enfin guéris, sont enfin délivrés, parce que l'autre, il disait, si, oh, je suis magicien, je suis ceci, mais le diable, il donne rien. Hein. Il donne parfois d'une main, tiens, je te donne, mais après, il vient chercher. Je suis poussé à le dire. Vous m'accordez quelques minutes. J'ai rendu ce témoignage hier à ce jeune homme qui est dans un milieu occulte. Alors que nous servions le Seigneur en Guadeloupe dans l'église de Capesterbello, vous regarderez sur, demandez à monsieur Google, Capesterbello, vous verrez, c'est au sud de la Guadeloupe, Basse-Terre. Et pendant une mission, il y a une radio dans les assemblées de Dieu de la Guadeloupe qui s'appelle Radio Souffle de Vie. Elle émet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et elle avait pour habitude, alors je ne sais plus aujourd'hui, mais elle avait pour habitude de suivre la mission là dans l'église où elle avait lieu en direct. Donc tout était retransmis en direct. Et vers la fin de la mission, donc l'émission durait une semaine, hein, ça ne dure pas 3 jours. Hein, ça dure d'un dimanche au vendredi. Et puis après on passe à une autre ville. Et donc là, il y avait cette mission, c'était avec le pasteur François Matina, de Montpellier, il s'en souvient encore. Et ce dernier soir, un homme et sa femme rentrent, la femme est enceinte. L'évangile est prêché, on fait un appel, et on les voit tous les deux se lever. Et quand ils s'approchent, ils disent « voilà notre situation ». En deux mots, hein, très rapidement, on prie pour eux, mais on dit « on va se revoir tout à l'heure ». Parce qu'on a saisi qu'il y avait quelque chose de particulier. Effectivement, après que tout le monde soit parti, ils sont restés et on a parlé encore pendant un bon moment. Et puis on a continué à prier pour eux. Qu'est-ce qui s'était passé ? Cet homme, donc, est d'origine indienne. En Guadeloupe, il y a beaucoup de personnes d'origine indienne, hein, voilà, qui sont installées. Doresami, Ramasami, voilà des noms indiens. Et lui, il était là, donc, depuis bien des années, hein, né en Guadeloupe, d'origine indienne. Et il nous raconte ceci, c'est que, alors qu'il était tout jeune, et qu'il venait d'avoir leur premier enfant avec son épouse, il voulait réussir dans les affaires. Et ça bloquait, il n'y arrivait pas. Et alors, selon les pratiques qui sont courantes dans le monde, dans le domaine occulte aux Antilles, vous avez un apport du voodooïsme qui vient d'Haïti, vous avez un apport des, ce qu'on appelle des séanciers, ça vient d'Amérique du Sud, et vous avez l'apport local, et on appelle cela des quimboiseurs. Donc, c'est de la sorcellerie, des pratiques occultes, des trafics occultes. Et cet homme dit, le seul moyen pour moi de réussir, c'est de faire ce que me propose la procédure occulte de mon île. Et ça se fait beaucoup d'ailleurs en plus, c'est ça qui est terrible. Ils ont décidé avec son épouse de prendre leur enfant et de le donner au diable. Alors c'est pas un sacrifice, ils ne l'ont pas tué. Hein. Mais ils sont allés faire ce qu'on appelle des bains de marée. Il y a des moments précis, selon la lune, ce sont ceux... Bref, des bains de marée avec l'enfant. Et il y a des incantations, etc. Et cet homme, quelques semaines plus tard, tout s'est débloqué. Et il est devenu l'un des hommes les plus riches de l'île, parce qu'il avait différentes auto-écoles, il en avait pas mal, Guadeloupe, Martinique, métropole, et particulièrement à Paris. Il se passe plusieurs années, son épouse, donc, on revient à ce que je disais tout à l'heure, elle est enceinte, elle attend un autre enfant. Et là, le premier enfant lui a grandi, et une nuit, l'enfant qui a été donné au diable. Une nuit, avec toute une... Je dis pas tous les détails, mais avec tout un système où il faut avoir sur soi ce qu'on appelle des bijoux montés, etc., etc. Bon, bref. Et donc, il y a là ce garçon qui, en pleine nuit, se lève, il va dans la cuisine, il va chercher un gros couteau de cuisine, il arrive dans la chambre, et heureusement qu'il a fait du bruit, ils se sont réveillés, il est arrivé au moment où il allait planter le couteau dans le ventre de sa mère pour tuer l'enfant. Ils ont réussi à le maîtriser, ils ont appelé la gendarmerie l'ont de suite interné, donc le temps qu'il soit jugé. Et à ce moment-là, voyant qu'ils étaient dans une grande détresse, ils ne savaient plus comment faire, et lui il s'est souvenu de ce qu'il avait fait, et il a compris la relation. Il a dit, il faut que j'aille vers une église. Et il avait entendu sur la radio, Radio Souffle de Vie, l'évangile. Mais ça ne l'intéressait pas plus que ça. Mais là, à ce moment-là, il a dit, il faut que j'y aille. C'est la dernière réunion, en plus. Et il est arrivé ce soir-là, et nous avons prié pour eux. Et ils nous ont dit, on a peur, parce que je sais qu'à un moment donné, le temps qu'ils soient jugés, ils vont être relâchés. Et il a dit, avec une attitude assez particulière, je tuerai l'enfant qui est dans ton sein, en parlant à sa mère, je te tuerai aussi, je tuerai toute la maison, etc. Et ils ont dit, mais il faut que Dieu nous secoure. On n'en peut plus. On ne sait plus comment faire. Et on a prié pour eux au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, avec l'action du Saint-Esprit, avec l'onction du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, ce soir-là, il y a quelque chose qui a changé. Leurs cœurs ont été touchés parce qu'ils avaient déjà reçu la parole et la parole avait été encore entendue ce soir-là et nous leur avons encore parlé de Jésus, de la nouvelle naissance, de la puissance de Dieu par rapport au diable qui est limité. Et là, là, ce moment-là, leurs cœurs ont été transformés. Et quelques jours plus tard, on les a croisés de nouveau. Et ils nous ont dit, notre fils a complètement changé d'attitude. Il n'y a plus cette folie. Seulement, on lui a dit, attention, parce que les affaires qui sont les vôtres, il peut se passer aussi certaines choses. Mais Dieu a quand même agi de manière à apporter à cette famille une vie nouvelle, quelque chose de nouveau. Et on voit que, eh bien, à Samarie, ça a été le cas. Et quand ils se sont convertis, ils ont été aussi baptisés du Saint-Esprit. Pierre et Jean sont venus reliser le texte et ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Saul de Tarse, également un fou, un homme qui en voulait à l'Église, un terroriste. Sur son chemin, il a été arrêté par la puissance de Christ. Il a été conduit aveugle à Damas, et là, Ananias a prié pour lui, pour sa conversion. Il a été baptisé d'eau, il a été baptisé dans le Saint-Esprit. On lisait bien la Bible, hein ? C'est noté. Et l'apôtre Pierre va ensuite se rendre plus tard à Césarée, dans la maison de Corneille, Actes chapitre 10. Et eux aussi vont entendre l'évangile. Corneille, c'est un centenier romain, c'est-à-dire c'est l'ennemi d'Israël. autant que Saul de Tarse était l'ennemi des croyants. Mais ce centenier romain, cet officier romain de la Légion romaine, de la Légion de César, cet homme a un désir dans son cœur, c'est d'entendre l'Évangile. Cet homme faisait des aumônes, il respectait quand même le peuple d'Israël. Et Dieu va voir tout cela, Dieu va voir son cœur. Ce matin, qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Il est en train de regarder votre cœur, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille. Et si vous avez un cœur qui cherche Dieu, qui a soif de Dieu, qui a soif de sa grâce, soif du salut qu'il est prêt à vous offrir, alors il est en train d'agir en ce moment même. Non seulement parce que je vous apporte la parole de Dieu, mais parce que l'Esprit de Dieu agit. Et pendant que je vais faire un appel dans quelques instants pour prier pour ceux qui le désirent, vous pouvez recevoir Jésus et être immédiatement baptisé dans le Saint-Esprit. Quand Pierre prêche dans cette maison de Corneille, il y a Corneille et ses amis, et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Au même moment, ils reçoivent Jésus, ils acceptent Jésus comme cela, ils prennent le pas, le temps d'une réflexion, de dire, on va attendre 2 ans, 3 ans, 5 mois, 6 mois, on a le temps, mais on a le temps de rien, mes amis. C'est une folie de croire qu'on a le temps. Vous pouvez mourir demain, excusez-moi de plomber l'ambiance. Mais c'est une vérité. C'est aujourd'hui qu'on se prépare à la rencontre de Dieu. C'est pas au dernier moment. Et voyez-vous, ces gens ont été très intelligents. Ils ont accepté Jésus. Et au même moment, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Et je termine. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, et pour prouver que c'était vraiment le baptême dans le Saint-Esprit, comme à la Pentecôte, qui est d'ailleurs un exemple suprême, comme Jésus l'a lui-même vécu, alléluia, parce que Jésus réunissait tout ce qui vient du Saint-Esprit, eh bien ils se sont mis à parler en langue. Des langues qu'ils n'ont pas apprises. Je ne peux pas vous l'expliquer, c'est miraculeux. Pardonnez-moi, je peux pas vous dire, voilà comment il faut faire. Il n'y a pas de recette. Il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est déjà accepter Jésus comme son sauveur. Et ensuite, de croire dans cette promesse. Pour la vivre. Pour la vivre. Le jour où il y a eu le même appel que je fais maintenant, parce que j'ai commencé mon appel. Ce jour-là, c'était un temps de prière, de jeûne et de prière. Ce jour-là, le pasteur a dit, c'était Antoine Ramos, il a dit, ceux qui désirent être baptisés dans le Saint-Esprit, qui ont accepté Jésus, bien sûr, c'est ce qui doit se passer avant, c'est un impératif, et il dit, mais qu'ils viennent, qu'ils s'approchent, on va prier pour eux. Et il y avait là les anciens, et c'est ce que je vais demander dans quelques instants à Michel et à Jean-David de venir avec moi pour prier. Et on était une dizaine, debout, je me rappelle, face à l'estrade. Et j'entendais les gens, ils se mis à parler en langue, ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Quand c'est arrivé à moi, j'ai dit, Seigneur Jésus, je crois dans ta promesse. Je lui dis, je me souviens de ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, j'ai tellement envie que tu me remplisses. Comme toi, Jésus, tu étais rempli de l'Esprit. Parce que j'avais retenu ce qu'avait prêché mon pasteur. J'ai tellement envie de cette plénitude. J'ai tellement envie de te servir avec plus d'efficacité. J'ai prié comme ça. Je ne sais plus si c'est le pasteur, si c'est un ancien, peu importe. Il s'est approché de moi, il m'a imposé les mains. Au nom de Jésus. Oh, je vous assure, ça n'a pas duré 2 heures, ça n'a pas duré 10 minutes, à peine qu'il a posé ses mains, au nom de Jésus, je me suis mis à parler dans des langues que j'avais jamais. J'ai eu un peu peur sur le moment. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça surprend, je reconnais, mais je me suis laissé aller. Et là, l'Esprit de Dieu m'a saisi, au point qu'il m'a tellement saisi, que les 9 sont retournés à leur place. Et moi, j'avais les yeux fermés. Je bénissais Dieu. Je parlais en langue. Je glorifiais Dieu. Ça s'arrêtait plus. Alléluia. J'étais tout seul sur l'estrade en train de bénir Dieu. À un moment, je me suis retourné. J'ai dit, mais où ils sont passés? Et mon pasteur qui avait un sourire. Et je suis allé m'asseoir. Ça fait 32 ans que je suis toujours rempli du Saint-Esprit. Toujours dans la plénitude. Non pas que je sois meilleur que les autres, parce que je ne suis pas le seul, mais parce que tous les jours, quand je prie, je laisse mon cœur être entretenu, être à nouveau, et à nouveau, et à nouveau rempli. Quand je suis dans le culte le dimanche matin, ma tête n'est pas ailleurs, elle est là. Et je sais que le Seigneur est présent, les chants me font du bien. Il me parle, il me pousse à louer Dieu, et je laisse l'Esprit de Dieu me renouveler. Quand je suis dans ma voiture, je bénis Dieu. Quand je suis dans la rue que je marche, je bénis Dieu. Quand je suis avec ma famille, je bénis Dieu. Il dit, Seigneur, renouvelle-moi. Voulez-vous être baptisé dans le Saint-Esprit? Voulez-vous être renouvelé dans le baptême de l'Esprit? Quelqu'un peut-être dit, oui, mais je ne suis pas encore au Seigneur. Approche-toi aujourd'hui de Jésus. Il va te guérir, il va te sauver, il va te pardonner, il va te libérer, il va changer ta vie. Il l'a fait pour moi. J'étais moins que rien. J'étais moins que rien, écrasé par la vie. Il a touché mon cœur. Il a fait de moi un homme de Dieu. Un homme changé, un homme transformé. Un homme qui n'est plus le même que j'étais autrefois. Tous ceux qui m'ont connu peuvent le dire. Jésus veut le faire pour vous. Il veut agir pour vous. Et comme dans la maison de Corneille, comme pour Saul de Tarse qui est devenu apôtre Paul, vous pouvez être baptisé dans le Saint-Esprit. Et si vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit aujourd'hui, alors que vous acceptez Jésus ou que vous l'avez déjà accepté, eh bien je vous baptise demain. C'est une façon de parler. Rien ne s'opposera à votre baptême d'eau. Amen. C'est ce que Pierre a dit aux autres apôtres. Quand tu es enfin chez fou, tu es allé chez Corneille. Oui, mais ils ont été baptisés comme nous. Ils se sont mis à parler en langue. On l'a vu, on l'a entendu. C'est une bénédiction. Et je prie pour l'église de Groyer, dont je suis pour l'instant encore le pasteur. Je prie pour que vous soyez sauvés, pour certains. Je prie pour que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Je prie pour que vous soyez renouvelés dans le baptême de l'Esprit. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont des chrétiens depuis de longues dates. Je suis sûr, et j'ai parlé avec beaucoup d'entre vous, vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit il y a quelques années en arrière. Vous en souvenez? Formidable. Mais vous pouvez être renouvelés. C'est important. C'est important. Tous les jours. Ça ne veut pas dire que quand on est baptisé du Saint-Esprit, on saute sur les tables. Non. Mais ça veut dire qu'il y a une onction. Après, on a des tempéraments, des personnalités différentes. Vous êtes comme vous êtes, je suis comme je suis, mais je ne vous demande pas d'être comme moi, dans ma personnalité, mais l'esprit qui nous anime ensuite, c'est une onction. C'est une force. C'est une bénédiction. Jésus en nous. Jésus par son esprit. On va se lever tous ensemble.